RCF.
Depuis plus de 100 ans, des millions de jeunes à travers le monde se sont lancés dans l'aventure scout. Cette aventure a souvent marqué leur vie très profondément, quand elle ne l'a pas totalement bouleversée. Car derrière la caricature du Boy Scout, il y a une pédagogie, des principes et une loi qui ont pour but de faire des jeunes des adultes responsables, libres et fraternels. Nous allons retracer avec vous cette aventure. Yves Combeau, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes dominicain, vous êtes aumônier scout à Paris et vous vous intéressez depuis longtemps à l'histoire du scoutisme. Vous-même, vous avez été scout, Yves Combeau ?
Oui, j'ai fait tout le parcours.
C'est-à-dire tout le parcours ?
Ah, j'ai été louveteau, j'ai été scout, j'étais routier, j'étais chef de troupe, j'étais chef de clan et j'ai même été assistant du commissaire national. Vous voyez, j'ai des barrettes longues comme le bras.
C'est évidemment ce qui vous a conduit à vous intéresser à l'histoire du scoutisme. On verra avec vous au cours de ces entretiens que les mouvements scouts sont assez nombreux, mais qu'il y a une origine évidemment commune qui s'est ensuite déclinée selon les sensibilités et puis les pays.
Oui, alors je suis historien de formation et j'étais intrigué par l'amnésie des mouvements, c'est-à-dire que à des questions très simples, d'où vient ce cérémonial, pourquoi est-ce qu'on fait comme ça et pas autrement, il n'y avait aucune réponse, y compris dans les instances nationales des mouvements en question. Et ça a déclenché ma curiosité historique. Partant de là, j'ai commencé à travailler d'abord de façon un peu distraite et puis de façon plus sérieuse ces dernières années.
On va dire que l'inventeur du scoutisme, c'est Robert Baden-Powell, un militaire britannique qui est né en 1857. Est-ce que vous voulez bien nous retracer rapidement son parcours et le moment où il a cette intuition ?
Alors, fils de pasteur, élevé dans la société britannique la plus classique, si j'ose dire, devient officier et mène essentiellement des conflits coloniaux, puisque c'était la grande activité militaire de la Grande-Bretagne à la fin du 19e siècle. Et il se trouve en Afrique du Sud, dans une ville qui s'appelle Mafeking, au cours de ce qu'on a appelé la guerre des Bourses, c'est-à-dire une guerre entre les Anglais et les colons d'origine néerlandaise, qui occupait cette partie du pays. C'était une guerre très dure et Baden-Powell a eu l'idée pour appeler au secours pour cette place de Mafeking d'utiliser des jeunes gens qu'il a donc appelés éclaireurs, scouts, qui est le terme consacré pour les jeunes auxiliaires de l'armée, pour les missions de reconnaissance et de transmission de messages. Comme il est sorti vainqueur de ce siège extrêmement difficile, il a été connu en Grande-Bretagne, on est en 1902-1903, comme un jeune héros. En plus, il porte au beau, il a une belle moustache, tout ça. Et il a l'idée de reproduire l'expérience de Mafeking appliquée à la jeunesse de son pays, la jeunesse britannique. Et donc, en 1907, il propose un camp sur l'île de Brownsea, dans la baie de Poole, où une trentaine de garçons vont expérimenter les activités de ces scouts de Mafeking.
Entre-temps, il a quand même publié un livre, Aids to Scouting, qui a eu un très grand succès, un très vif écho.
Aids to Scouting a eu un énorme succès, mais c'est pas encore le scoutisme, si vous voulez. Parce que le mot est ambigu, étant donné que d'abord,
éclaireur,
scout, c'est un mot militaire, c'est éclaireur. Tandis que là, en 1907, il s'agit vraiment de proposer, en situation de paix complète, sans aucune allusion militaire, des activités inspirées de celles des jeunes de Mafeking, mais avec un but assez différent. À Mafeking, il s'agit évidemment de servir le roi, la patrie, l'empire, et de répondre à une situation d'urgence. À Brownsea, en 1907, il s'agit juste d'employer ses moyens dans un but éducatif dégagé de toute préoccupation militaire. L'expérience fonctionne très bien. Baden-Powell en fait le récit, comme toujours chez lui, après coup, dans un livre appelé Scouting for Boys, éclaireur, dans sa traduction française, qui remporte un succès foudroyant, non seulement en Grande-Bretagne, mais en Europe.
Au cours de ce camp, il teste donc des idées d'éducation par le jeu, d'indépendance, de confiance en soi, de vie dans la nature.
Vous avez tout bien dit.
C'est à peu près ça.
C'est à peu près ça. Donc vous prenez des garçons, il utilisait fréquemment le dicton anglais « boys will be boys », c'est-à-dire on prend les garçons avec leurs qualités et leurs défauts naturels. Oui, c'est remuant, ça mange avec les doigts, ça pousse des cris, ça joue les chimpanzés dans les arbres, ça a une très grande fidélité, ça a beaucoup d'élan. ça désire fortement grandir, ça cherche à nouer des amitiés authentiques, bref, toutes les possibilités psychologiques du garçon. Et vous les faites vivre pendant un temps limité, certes, dans un espace qui est littéralement une utopie, c'est un non-lieu. C'est-à-dire que vous les sortez de la civilisation. Ben Paul a choisi une île, c'est assez symbolique, et vous les mettez, certes, dans la nature, mais surtout loin de leurs semblables. Et entre eux, dans ce monde acivilisé, ils découvrent, au travers d'activités qui correspondent à leurs attentes anthropologiques, leurs attentes de base, leur tempérament de garçon, ils découvrent les valeurs que Baden-Powell souhaite inculquer. C'est-à-dire que la découverte est d'abord faite par le jeu, le corps, l'esprit, l'affectivité, et qu'elle est ensuite qualifiée, identifiée par le chef.
La suite de l'histoire, Véronique Elzieux.
Le chant de la prière scout qui est remarquable, mais ce qui l'est aussi, Yves Combeau, c'est la rapidité avec laquelle ce premier camp, cette première expérience se diffuse et tient ses promesses, c'est le cas de le dire.
Oui, c'est stupéfiant. Vraiment, le succès est littéralement foudroyant puisque en l'espace de moins de 5 ans, pratiquement tous les pays d'Europe, Russie compris, ont des mouvements scouts qui sont en train de se structurer. Alors, il me semble que cela tient en grande partie au fait que, en quelque sorte, l'époque attendait quelque chose. Alors nous, on n'a pas vraiment conscience de ce que c'est que les années 1900-1910 en Europe. L'Europe est très puissante et très riche, mais philosophiquement, politiquement, pédagogiquement, enfin je pourrais multiplier les adverbes, elle est en quête d'un renouveau. Les méthodes d'éducation du XIXe siècle sont extrêmement usées, ce sont des méthodes de contrainte, littéralement des méthodes de dénaturation, c'est-à-dire qu'on suppose que la nature du garçon est mauvaise et que pour l'éduquer, il faut changer cette nature.
Le scoutisme, c'est le contraire.
Exactement le contraire. C'est une renaturation du garçon, en fait. Plus exactement, on utilise la nature du garçon pour le faire grandir, mais conformément à sa nature. Donc il y a vraiment une attente, et puis il y a toutes sortes d'initiatives qui ne sont pas sans annoncer le scoutisme, bien qu'elles soient tout à fait indépendantes. En Allemagne, le monde étudiant a déjà l'habitude de pérégriner sur les routes, sac au dos, dans une vie très ascétique, très simple. En France, c'est le développement extrêmement rapide des patronages, avec une prise en compte de la psychologie de l'adolescent comme telle. Je rappelle que, par exemple, le premier roman proprement adolescent dans sa psychologie, dans son texte, dans son intention, c'est Le Grand Môle d'Alain Fournier, qui date exactement de ces années-là.
Vous parlez essentiellement des garçons, Yves Combeau. Il faut quand même préciser que l'épouse de Baden-Powell se lance elle aussi dans l'aventure et devient chef guide.
Oui, alors, il y a un tout petit peu d'années de décalage. C'est bien que vu de 2020, c'est ridicule de penser que Olav, puisque t'avais son nom, Olav Baden-Powell, arrive quelques années après son mari, que les guides arrivent quelques années après les garçons. Parce que là, on est vraiment à Baden-Powell. Il faut comprendre que le scoutisme garçon a suscité beaucoup d'opposition, parce qu'on parle de son succès, mais les oppositions étaient très virulentes.
Pour quelle raison ?
Parce qu'on transformait les garçons en sauvages. Côté catholique, il y avait d'autres préventions, mais on en parlera à propos des scouts français. Parce que une éducation indisciplinée, parce que c'est une forme de régression, parce que on se méfie beaucoup des simples amitiés entre garçons. Enfin, il y avait tout un tas de raisons. Et alors pour les filles, c'est encore pire, parce que déjà, on a du mal à mettre le garçon dans la nature, mais alors mettre une fille dans la nature, c'est en faire une souillon, si vous voulez. Elle va revenir avec quoi ? Avec des branches dans les cheveux ? Voilà. Je dis ça en plaisantant, mais c'est une opposition tout à fait fondamentale. Cette idée que faire camp les jeunes filles, c'est contraire à la nature des jeunes filles.
Mais alors au début, Yves Combeau, de ce mouvement, on s'adresse à des garçons de milieux plutôt populaires ou on s'adresse à toutes les catégories ?
Et on insiste souvent sur le fait que Baden-Powell a été frappé par le désœuvrement et la désagrégation morale de la jeunesse ouvrière de la Grande-Bretagne à son époque, et c'est vrai. Mais à Brownsea et dans tous les camps ultérieurs, il a en fait mélangé les garçons de différentes origines sociales, parce qu'il avait aussi constaté les insuffisances du système éducatif des élites britanniques, les fameuses public schools. Ça marchait pas, discipline trop forte, activité sportive sans véritable but, etc. Ça ne marchait plus. Et de toute façon, dès le début, le gros des effectifs, comme on pouvait s'y attendre, est constitué par un public middle class. Commerçants, artisans, fonctionnaires. Et ça sera toujours le cœur du scoutisme, particulièrement du scoutisme britannique.
On a plutôt l'impression, vu d'ici, que c'est un mouvement qui s'adresse au contraire à des jeunes de bonne famille.
C'est une spécificité française. Ça n'est vrai que pour le mouvement catholique, ça n'est pas vrai pour les autres. Ça tient à une sorte de rencontre curieuse, un peu inattendue, qui s'est produite entre le scoutisme catholique naissant et une certaine société, notamment parisienne. En quelque sorte, c'est pas le scoutisme qui a été cherché dans ce milieu-là, c'était pas du tout sa volonté, bien au contraire. C'est ce milieu-là qui a été captivé par le scoutisme.
J'aimerais qu'on termine ce premier entretien par l'évocation du premier Jamboree Scout mondial, 1920. Environ 10 000 participants, déjà 21 pays représentés, c'est un véritable triomphe.
Oui, oui, c'est un triomphe, c'est merveilleux.
Donc Jamboree, c'est quoi ? C'est un rassemblement international ?
Oui, c'est une expression africaine, me semble-t-il, pour désigner un rassemblement. Baden-Powell utilisait volontiers un vocabulaire emprunté à ses années d'officier colonial. Mais surtout, ce premier Jamboree, en fait, il a donné le ton. Baden-Powell, qui est un militaire de formation, est devenu pacifiste progressivement. C'est un pacifisme qui est discret, c'est pas un échevelé, mais enfin, il est quand même fermement affirmé. Et en réunissant, juste après la fin de la Première Guerre mondiale, des garçons de tous les pays, y compris de pays qui avaient été ennemis entre eux, dans un même camp et dans un même esprit fraternel, il démontrait ce qu'était son idée d'un pacifisme pratique, c'est-à-dire un pacifisme qui passe par le partage des valeurs communes à tous les jeunes.
Yves Combeau, nous avons vu la rapidité du succès que rencontre le scoutisme un peu partout en Europe, mais même au-delà, notamment sur le continent américain, au sud et au nord du continent. J'aimerais qu'on s'intéresse plus particulièrement à la manière dont ce mouvement scout est introduit en France et qui en sont en quelque sorte les promoteurs.
Alors, c'est une question qui suscite toujours beaucoup de débats chez les spécialistes, parce que, bien sûr, chacun cherche une origine plus ancienne, etc. Bon, allez, soyons sérieux. Dès 1907, les articles et les livres de Baden-Powell sont remarqués en France et traduits. Le nom qui me vient immédiatement en tête, c'est celui d'André Cheradam, qui était journaliste à l'Aurore ou au Figaro, qui s'est passionné pour cette idée de Baden-Powell. Quoi qu'il en soit, dès 1909, donc 2 ans après la création du scoutisme, on a en France la création d'unités scouts. Des initiatives isolées, hein. Il n'y a encore aucune association qui existe. Ces initiatives sont essentiellement prises soit par des éducateurs de métier, notamment des professeurs de collège ou des instituteurs, soit par des animateurs de patronage. Alors il y en a de toutes sortes, laïcs, catholiques ou protestants.
Par exemple, Pierre de Coubertin n'y serait pas pour rien. On parle aussi de Georges Berthier, Nicolas Benoît. Ce sont des noms qui sont véritablement associés à l'introduction du scoutisme en France ou c'est la légende ?
Non, tout cela est vrai. Coubertin, bon, évidemment, il est connu pour les Jeux Olympiques, mais il cherchait en général à proposer des méthodes d'éducation complémentaire à l'école. Et le scoutisme l'a beaucoup intéressé. Berthier était un brillant directeur de collège, directeur de l'école des Roches. Et Benoît était officier de marine. Et beaucoup de militaires cherchaient aussi à proposer à la jeunesse de nouvelles méthodes éducatives. Non, tout cela est vrai. Mais ce qui est important, c'est la dispersion. C'est-à-dire que de nombreuses initiatives importantes sont restées anonymes, tandis que d'autres ont été plus connues parce qu'elles se trouvent être, si vous voulez, la racine d'un mouvement encore à naître. On connaît Berthier et Benoît parce qu'ils ont fondé les Éclaireurs de France et que les Éclaireurs de France ont bien marché. On connaît Coubertin, mais en fait, on ne connaît pas sa tentative scout, qui est un échec, on le connaît pour autre chose. Et en matière de catholiques, c'est pareil, on connaît et on répète des noms qui sont des noms exacts, mais il faudrait les multiplier par peut-être 6, 7 pour avoir le panel réel des premières initiatives scouts dans le monde catholique.
Vous n'avez encore pas prononcé le nom du père Jacques Sevin, qui est pourtant celui que l'on cite en premier quand on parle des importateurs, si vous me permettez le mot, du scoutisme en France.
Alors on a raison. Sevin est un jeune jésuite qui, comme tous les religieux, se trouve hors de la France, puisque depuis les lois anticléricales de 1902, les religieux catholiques avaient été expulsés par la République. Et donc il est à Moucron, en Belgique, à la frontière belge. Il se trouve qu'il lit assez bien l'anglais, il le parle aussi d'ailleurs. Donc il est très très intéressé par ce que propose Baden-Powell. Il monte une troupe à Moucron, puis une deuxième, puis dès qu'il peut venir en France, à Lille. Et il participe très activement à la création des scouts de France en 1920. Par scout, il faut entendre scout catholique de France. Le deuxième nom qui vient, ça sera éventuellement celui du chanoine Cornette. Et généralement, les historiques mentionnent quelques autres noms. Tout cela est parfaitement vrai, mais le mouvement des scouts de France s'est nourri à des sources, à des sensibilités et à des personnes variées, dont Sevin n'est que l'une des principales.
Est-ce que ça reste très diversifié ou bien on voit une unité apparaître entre ces mouvements ?
Baden-Powell, connaissant la diversité religieuse de la Grande-Bretagne et de son empire, tout en étant un univers, disons, chrétien, avait proposé un mouvement unique qui comprendrait des unités qui se détermineraient librement, catholiques, anglicanes, méthodistes, etc. C'est comme ça que l'association britannique est une. Ça n'a pas été évident, mais ça a été acté ainsi. En France, on partait dans cette direction-là, mais il y avait quand même des problèmes. Un des problèmes, c'est que dans une association unique, interconfessionnelle, les jeunes catholiques risquaient de se trouver sous la direction effective de non-chrétiens ou de protestants, ce qui était inadmissible pour l'Église catholique dans sa grande majorité. La même question se posait à peu près dans les mêmes termes pour les protestants qui craignaient en plus que les catholiques étant majoritaires, ils prennent la majorité dans l'association. Enfin, chacune des confessions assignées au scoutisme des buts légèrement différents. Ce qui est très compréhensible puisque dès qu'une confession s'intéresse à une méthode éducative, cela a aussi une visée d'évangélisation. Donc ça change un peu le but. De sorte que, on a constitué plusieurs associations, une par confession, Scout de France pour les catholiques, les éclaireurs unionistes pour les protestants, les éclaireurs de France tout court pour les jeunes qui n'ont pas de religion, les éclaireurs israélites pour les jeunes juifs et l'équivalent féminin, les guides de France pour les jeunes filles catholiques, ainsi de suite. Ces mouvements sont structurés à peu près semblablement, mais en même temps ils sont étanches les uns aux autres. Voilà, c'est la France.
La suite de l'histoire, Véronique Elzieux.
Notre-Dame des Éclaireurs, Yves Combault, encore un chant scout très connu. Qui,
et un chant du Père Sevin.
Voilà, j'allais le dire, comme la prière scout que nous avons précédemment entendue, dont les paroles sont du Père Sevin.
Oui, mais parce que le Père Sevin est une sorte de génie protéiforme. Il écrit, il met en scène, il imagine, il fait de la musique, il a tous les talents, c'est un merveilleux narrateur. Puis il a un instinct pédagogique formidable. Et donc on le trouve partout en fait dans ces premières années.
Quelle est la population qui est visée par le scoutisme en France ?
En France, les fondateurs s'adressent dès le début à des catégories contrastées, peut-être insolubles entre elles. Les premiers essais se font assez nettement en direction d'un milieu très populaire. Mais presque aussitôt, on voit des essais dans des collèges privés qui, étant payants, ne sont pas accessibles aux plus pauvres. Et on voit enfin des essais qui s'adressent simplement à la population d'un lieu donné dans sa diversité. Ce qui nous donne donc au moins trois catégories principales. D'abord les milieux les plus populaires, avec des jeunes qui, je le rappelle, à cette époque-là, travaillent à 14 ans. Il s'agit de contribuer à remédier à une éducation, non seulement une éducation scolaire qui fait défaut, mais une éducation familiale qui est souvent assez mauvaise. La deuxième catégorie, ce sera le petit monde des lycées et des collèges, aussi bien catholiques que laïcs, parce que l'accueil au scoutisme a été très large dans les établissements publics jusqu'aux années 60. Là, il s'agit d'une méthode complémentaire de l'école, souvent mise en place par les professeurs ou les responsables pédagogiques eux-mêmes. La troisième catégorie, c'est de loin la plus importante en quantité, c'est tout simplement la population moyenne d'un lieu donné. Les commerçants, les artisans, les fonctionnaires. Bref, tout ce centre, ce middle class qui fait en général la structure en fait d'une petite ville, qui fait toujours la structure d'une paroisse, puisqu'une paroisse vit toujours par cette espèce de bourgeoisie moyenne qui constitue son cœur et sa plus forte pratique. Puis enfin, oui, deux spécificités françaises. La première, c'est ce qu'on pourrait appeler la grande bourgeoisie. Et la seconde, c'est le milieu universitaire. Il n'y a qu'en France que des milieux a priori aussi étrangers au scoutisme ont éprouvé pour le scoutisme un intérêt aussi vif.
On a pourtant l'impression que c'est la haute bourgeoisie, voire l'aristocratie, qui sont les plus représentés dans les mouvements scouts en France. D'où vient cette impression et est-ce que finalement elle est si éloignée que ça de la vérité ?
Oui, elle est très éloignée de la vérité. Même dans une ville aisée comme Paris, puisque j'ai des statistiques à peu près fiables pour Paris, montre que ce n'est pas du tout vrai. Simplement, c'est visible. Évidemment, quand votre chef de troupe a un nom à rallonge, vous le voyez. Ce qui est vrai, en revanche, c'est que, contrairement à ce qui s'est passé en Grande-Bretagne, la grande bourgeoisie, et l'aristocratie c'est un grand mot, mais enfin, disons, les milieux de notabilité ancienne ou de noblesse, ont trouvé dans le scoutisme catholique quelque chose qui répondait à leurs attentes. C'était pas vraiment prévu. C'est lié en partie au fait que le scoutisme catholique est né, au moins pour le groupe fondateur, le premier Paris, qui est le groupe des chevaliers de Cornette, est né dans une paroisse très aisée du 16e arrondissement. Mais je crois aussi qu'il y a une sorte de rencontre providentielle que j'ai du mal à expliquer, qui fait que l'on voit dans les années 30, 40, 50 encore, des pères de famille qui n'envisageraient pas de sortir de chez eux autrement que gantés, cravatés, chapeautés et avec des guêtres sur leurs chaussures, se mettre en culotte courte pour encadrer le groupe où sont leurs fils et s'en trouver très bien. Je ne sais pas pourquoi, c'est comme ça.
La population qui s'adonne au scoutisme en France dès l'origine est diverse.
Elle est très diverse. Elle est très diverse et c'est d'ailleurs, je pense, une des forces du scoutisme qui fait que sa présence numérique reste très importante dans notre pays. Ça a pu conduire à l'intérieur des mouvements à des malentendus. Je ne dis pas à des querelles parce que je n'ai pas détecté de querelles proprement sociologiques à l'intérieur des mouvements, mais à des malentendus. Par exemple, il est frappant de voir comment les responsables d'origine universitaire et scolaire, professeurs, etc., qui sont souvent très nombreux parmi les cadres du mouvement, ce qui semble assez normal, puisque souvent...
Sensible à la pédagogie, quoi.
Oui, voilà, tout à fait, sensible à la pédagogie, puis disposé à s'engager de façon associative, ont en général confisqué le discours sur les milieux populaires, parce que les milieux populaires parlent peu, ou mal. C'est très frappant de voir des universitaires qui sont assurément pas issus d'un milieu populaire se mettre à parler de scoutisme en milieu populaire dès les années 30 à longueur de bulletin. Enfin, moi, j'aimerais bien que les jeunes de milieu populaire aient parlé d'eux-mêmes.
La pédagogie scout, Yves Combault, s'est élaborée à partir d'une expérience militaire faite par Robert Baden-Powell, qui l'a donc, vous l'avez dit, adaptée à un contexte de paix, en vue vraiment de faire des garçons avec qui il a expérimenté le premier camp, des personnalités solides, responsables, fiables et fraternelles. Alors on va essayer de développer un peu avec vous les principes scouts, la loi scout, la promesse scout, en dégageant des grands thèmes, parce que ça pourrait prendre des heures. Qu'est-ce qui est à retenir dans les grands axes que Baden-Powell a voulu mettre en relief à travers cette loi, principes.
Alors, Baden-Powell est porteur d'une sorte d'humanisme, on peut dire le mot, mais au sens vraiment technique, c'est-à-dire qu'il prend l'homme, le garçon et la fille, dans toute son humanité, le corps, l'affectif, l'intellectuel et le spirituel, et il unifie cela en cherchant un épanouissement simultané de ces différentes facultés. Et puis, il le fait par un moyen qui est un peu surprenant. Au lieu d'employer la parole, il emploie le jeu. Au lieu d'adapter le jeune à la ville, au contraire, il le met dans la grande sauvagerie. Voilà. Et ce détour ludique, de façon un peu inattendue, rend le jeune plus serviable, plus maître de de soi, plus courageux, plus souriant, je pourrais multiplier les adjectifs. Parce que dans ce cadre, le jeune a trouvé à exprimer sa nature. Or, le postulat de Baden-Powell, c'est que la nature du jeune est bonne. Je rappelle que le postulat majoritaire de son époque, c'est que la nature du jeune est mauvaise. Lui, il dit non, non, la nature du jeune est bonne et il faut mettre le jeune dans la nature, dans une société naturelle qui est celle de ses pairs, les autres adolescents, et ses potentialités vont s'épanouir. Elles vont pas s'épanouir par miracle, elles vont s'épanouir parce que le chef, le grand, est là pour en révéler les potentialités et les nommer.
Cette expérience, elle aurait pu s'avérer désastreuse, c'est-à-dire mettre des garçons ados dans un milieu qui, pour eux, était peut-être hostile au début. Ça aurait pu être du chacun pour soi. Qu'est-ce qui a fait que, au contraire, c'est la fraternité, l'entraide et la joie qui l'ont emporté ?
C'est ici et ici seulement qu'arrive le fait que Baden-Powell est militaire. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas une transposition de son expérience militaire, c'est une expérience toute nouvelle dans laquelle il va utiliser des moyens qui viennent de son expérience militaire, ce qui est pas pareil. Il sait comment on mène des hommes. Par exemple, il sait qu'en mettant des garçons, spécifiquement des garçons, dans un uniforme, on élimine les rivalités d'apparence qui sont très importantes à l'adolescence, à une époque où on construit son image. Quand tout le monde est à peu près du même beige ou du même bleu marine, ben du coup on se compare plus. Il sait qu'en établissant une hiérarchie minimale mais naturelle entre l'aîné et le cadet, on se débarrasse justement des concours de coq qui marquent les cours de récréation. Et il sait aussi qu'en organisant des activités qui vont quand même bien les solliciter, on trouve à la fois à développer leur corps et permettre leur fierté virile. Et là encore, c'est très important à l'adolescence quand on construit sa psychologie. Bref, il trouve le moyen, par une pédagogie un peu inattendue, de développer en fait les facultés naturelles qu'il présuppose bonnes dans chaque garçon.
Yves Combault, pour quelle raison mettre en place le principe de la promesse devant d'autres, de manière d'ailleurs assez solennelle ?
Oui, tout à fait, très solennel. En soi, c'est pas très original. Je rappelle que presque tous les mouvements et les patronages connaissaient et ont connu longtemps un engagement de ce type-là. Dans nos auditeurs, ceux qui ont été cœurs vaillants et âmes vaillantes se souviennent de leur engagement dans ces grandes associations de jeunesse. Ce qui est original, c'est sa solennité. C'est-à-dire que on fait pressentir aux jeunes que l'acte de s'engager est en lui-même quelque chose de très important. Ce qu'il promet de respecter la loi et les principes et de rendre chaque jour un service à quelqu'un, il le comprend intellectuellement même s'il n'a pas tout éprouvé de l'engagement qu'il prend, ce qui conduira à des difficultés plus tard. Mais il sent que c'est très important, c'est-à-dire qu'il y a en quelque sorte une piste à prendre, un mystère à découvrir, un chemin auquel adhérer. Et c'est ça l'intérêt de la promesse scout, c'est qu'elle ne bloque pas le jeune sur une situation, au contraire elle le met en marche.
Alors cette promesse, il faut quand même la donner, en tout cas sous sa forme disons initiale, hein, la plus proche de celle qu'a voulu Baden-Powell. Sur mon honneur, je promets de faire tout mon possible pour servir Dieu et le roi ou Dieu et mon pays, selon les circonstances, aider mon prochain à tout moment et obéir à la loi scout.
Voilà. Donc ceux de nos auditeurs qui ont été scouts et guides reconnaîtront aisément le texte de leur propre promesse. Là, ce qu'on vient d'entendre, c'est le texte originel de Baden-Powell. À quoi les catholiques ont ajouté à la mention « Je vais faire de mon mieux avec la grâce de Dieu ». Puisque la volonté seule du sujet ne suffit pas, la grâce de Dieu doit aider. Et nous n'avons pas de roi à servir, ah là là, alors du coup on sert la patrie. Mais sinon, pour le reste, le texte de Baden-Powell a été adopté en France quasiment intact. Il en est de même pour la loi scout. Chaque mouvement a toiletté la loi de Baden-Powell, mais la structure reste tout à fait reconnaissable dans tous les cas.
Devant tout, je m'engage sur sans cesse, de plus en plus, protège ma promesse, Seigneur Jésus. Je jure de te suivre en fier chrétien, et tout entier je livre mon cœur au tien. Je veux t'aimer sans cesse, de
la suite de l'histoire, Véronique Elzieux.
Le chant de la promesse, Yves Combeau, évidemment, incontournable aussi. Je reviens sur la loi scout que vous évoquiez. En gros, voilà ce que ça dit. Le scout n'a qu'une parole, il est loyal, il se rend utile et il aide son prochain. Il est ami de tous et de tous les autres scouts. Il est courtois, il est bon pour les animaux, il obéit sans discussion. Il sourit et siffle dans les difficultés, il est économe et il est propre dans ses pensées, ses paroles et ses actes. Est-ce que le scout n'a que des devoirs? Est-ce qu'il ne vit que sous la contrainte, ce pauvre garçon ou cette pauvre fille?
Alors, pas du tout, parce que d'abord, il y a certains de ces articles, moi, ma propre expérience est assez éclairante, il y a certains de ces articles qui sont tellement naturels au garçon qu'en fait, il en est persuadé. Moi, le scout obéissant à la pique, ça ne me posait aucun problème, parce que j'ai toujours été un garçon très docile avec mes parents. Où le scout voit dans la nature l'œuvre de Dieu, ça c'est la traduction française, il aime les plantes et les animaux, moi c'est tout à fait naturel, j'ai jamais pu écraser un moustique sans avoir des remords. La difficulté n'est pas dans le fait d'adopter cette loi. La difficulté, c'est dans le fait de la tenir. C'est-à-dire qu'un garçon peut être persuadé que la loyauté est indispensable et en même temps se trouver à commettre un acte de déloyauté. Et donc, la question, c'est pas la question des principes de la promesse, c'est la question de la mise en pratique de ces principes dans la vie du jeune.
Lorsque le jeune fait sa promesse, il s'engage à tout faire pour tenir ses principes, les vivre au mieux et ne jamais les oublier.
Oui. Et surtout ne jamais les oublier. En France, on a très vite vu ce qu'il y avait d'évident en fait dans les propositions de Baden-Powell, mais on aurait pu catholiciser cette loi, ses principes et cette promesse en y rajoutant, par exemple, des obligations de piété ou en exprimant avec des concepts catholiques les choses très simples qu'énonçait cette loi. Bref, en chargeant la barque. Or, au contraire, le père Sevin, le père de Grangeneuve, qui était un prêtre de Paris, le chanoine Cornette et quelques autres aumôniers, et puis des jeunes laïcs, qui étaient souvent les tout premiers chefs, Lucien Goual, Paul Cause et d'autres, ont insisté pour qu'on ne charge pas les propositions de Baden-Powell. En raison de ceci, il est exact, pour un catholique, que la nature créée du garçon est bonne. Par conséquent, il n'est pas besoin de surajouter à ses instincts naturels, et en particulier, il n'est pas besoin de faire démonstration de piété ou d'ascétisme. L'expression de la nature du garçon, bien accompagnée et bien dirigée par le chef ou la cheftaine, devrait le conduire de soi, non seulement à l'épanouissement, mais à la sainteté. Et c'est là qu'on atteint le propre du scoutisme catholique.
Un mot sur la manière dont les choses se structurent, notamment au niveau mondial.
En 1922-1923, non sans difficulté, le leadership définitif de Baden-Powell sur l'association mondiale est assuré. Je fais cette parenthèse parce qu'il ne faut pas imaginer que tout a été facile non plus pour Baden-Powell ni au niveau mondial. À partir de là, on a une association qui porte aujourd'hui le nom d'OMMS. Je ne sais plus très bien ce que veulent dire ces lettres-là. Quelque chose
Organisation mondiale du mouvement scout.
Ah, merci beaucoup, vous savez plus de choses que moi. Qui comprend des associations membres. La difficulté... Normalement, ces associations sont nationales et c'est une association par pays. La difficulté, c'est que dans la plupart des pays occidentaux, il y a plusieurs associations. Donc, il y a une partie importante des scouts et guides de ces associations qui sont indubitablement des scouts et guides, mais qui ne sont pas dans le scoutisme mondial. Tel est le cas en France, puisque selon mon pointage, 60% des scouts et des guides catholiques français ne sont pas membres de l'OMMS.
Les années 70 ont été des années de bouleversement pour la société à différents niveaux. Yves Combeau, est-ce qu'on peut dire que le scoutisme a lui aussi été un peu chahuté, un peu bouleversé par l'évolution de la société et un certain nombre de codes, de repères, disons, qui bougeaient à ce moment-là?
Alors, vous venez d'évoquer les années 70. Ah oui, oui, sans aucun doute, c'était les années les plus rock'n'roll du scoutisme. Je crois qu'on a vu tout et n'importe quoi dans les plus respectables des mouvements français. Enfin, quand on voit les photos, c'est extraordinaire. On voit les jeunes en jean, pas de def, à bord d'un autobus qui n'a plus de portière, quelque part en Ardèche, enfin. Mais je reviens justement un peu plus en arrière. La rupture a eu lieu dans les années 60. Les dates sont faciles à retenir. 64, 65, c'est-à-dire juste pendant le Concile Vatican II. Et ce qui a été rompu, révoqué, C'est une méthode de scout, chez les garçons comme chez les filles, qui avait déjà, si vous comptez bien, à cette date-là, plus de 40 ans. 4 décennies d'amélioration et d'approfondissement régulier, c'est-à-dire que le scoutisme des années 20 était assez grossier, celui des années 30 un petit peu plus précis, celui des années 40 et 50 était parvenu à un état de maturité et d'efficacité, par conséquent, remarquable. Or, dans ce début des années 60, plusieurs ruptures sont à l'œuvre. D'abord, le concile qui veut changer la façon qu'a l'Église d'être dans le monde et qui, pour ce faire, veut aussi changer les formes de l'Église. Ensuite, la mutation de la société elle-même. Nos aînés se souviendront peut-être avec émotion du fait que être lycéen en 1962, mettons, et être lycéen en 1969, ça n'a juste rien à voir. C'est-à-dire qu'il y a un basculement culturel considérable en l'espace de quelques années. Et enfin, dans le scoutisme, l'idée que peut-être la troupe et son équivalent féminin, la compagnie, qui sont l'unité centrale, qui vont de 12 à 17 ans, peut-être cette vieille troupe a-t-elle fait son temps ? Peut-être faut-il faire comme font désormais le collège et le lycée, c'est-à-dire séparer les préadolescents et les adolescents. Peut-être faut-il renoncer au primat du jeu dans la nature pour travailler à l'intégration du jeune dans la cité, par le service. Il y a aussi la question de la hiérarchie, puisque on envisage de supprimer la hiérarchie entre garçons. Et dans un second temps, mais très rapidement, en 68, on envisage de supprimer la hiérarchie tout court, c'est-à-dire que les chefs ne sont plus qualifiés de chefs, mais d'éducateurs, ou d'adultes, ou d'accompagnants, ou tout autre mot. Cette grande mutation se produit chez les scouts de France, mais au même rythme que dans les autres mouvements mondiaux, avec des accents propres au catholicisme.
Vous parlez de rupture, Yves Combeau, ça veut donc dire que le mouvement des scouts de France est scindé en deux, ou même en plus que ça ?
Alors d'abord, il y a une rupture épistémologique, c'est-à-dire qu'on change d'univers entre les scouts de France de 1963 et ceux de 1973, disons plus tard. C'est le jour et la nuit, ça n'a rien à voir. Ce qui ne veut pas dire, encore une fois, je le répète, que la réforme, ce qu'on a appelé la réforme des scouts de France et la nouvelle pédagogie, pionnier Rangers, pour employer les termes, soit inintéressante ni mauvaise, pas du tout, ce n'est pas du tout mon idée. Mais c'est un changement très radical. Il est si radical, et surtout il est obligatoire, que du coup, une partie importante des membres du mouvement le refuse, en disant que l'ancienne méthode demandait peut-être un toilettage, mais que non seulement on a jeté l'eau du bain, mais qu'on a jeté le bébé, la baignoire et la maison avec. Par conséquent, il voudrait continuer à faire du scoutisme un peu comme avant, voire tout à fait comme avant. Simplement, là, il y a une hésitation. Le mouvement des scouts de France ne semble pas le permettre, mais partir des scouts de France, c'est quitter la maison mère. Et puis, les alternatives liées au concile, la querelle liturgique, qui commence, disons, en 69 à peu près, des préoccupations d'ordre politique, les scouts de France n'ayant pas hésité à donner assez abondamment pendant plus de 15 ans, dans un discours que je qualifierais, sans être péjoratif, de catholique de gauche. Tout ça fait que cette opposition au sein des scouts de France ne donne pas un mouvement alternatif, ni deux, mais un certain nombre. Et de ce certain nombre, aujourd'hui, dominent presque exclusivement deux grands mouvements de taille équivalente qui sont les guides des scouts d'Europe et les scouts unitaires de France.
Et que sont devenus les scouts de France, puis les guides de France ?
Les scouts de France et les guides de France ont décidé, au début des années 2000, de fusionner. De fusionner parce qu'ils avaient choisi les uns et les autres, dans les années 80, la mixité. Donc du coup, on se trouvait avec deux mouvements mixtes. Cette mixité n'était certes pas obligatoire. Il y avait toujours des unités 100% garçons chez les scouts et 100% filles chez les guides. Mais le fait qu'ils étaient majoritairement mixtes, avec un discours pédagogique sur la mixité qui était très comparable, les a persuadés que finalement ça ne servait à rien de rester séparés. Ils ont donc procédé à leur union et c'est l'association des guides de France qui juridiquement a absorbé l'association des scouts de France.
En termes comptables, vous dites que les deux grands mouvements qui dominent actuellement en France, ce sont les guides des scouts d'Europe et les scouts unitaires de France.
Non, lorsque j'ai dit domine, je voulais dire domine parmi les mouvements qui ont refusé la réforme.
Parce qu'aujourd'hui, les scouts et guides de France restent le principal mouvement en France.
Oui, c'est le premier. Je dirais que, en gros, Et vous me pardonnerez le grand flou de ces chiffres. Et d'ailleurs, je ne donnerai pas de chiffres, je donnerai des pourcentages. Je pense que environ 40% des jeunes, je dis bien des jeunes, de 9 à 17 ans, sont scouts et guides de France, 30% scouts unitaires, 30% scouts d'Europe.
Nous avons plein d'eau, plein de sacs, plein de fonds, des guenillots, des pelles, des pioches, des gamelles, des bidons, des gamelles, des guenillons, des carottes dans le ventre, des gamelles dans le mur.
Nous avons
plein d'eau, plein de sacs, plein de fonds, des guenillots, des pelles, des pioches, des gamelles, des
bidons,
des
carottes dans le ventre, des gamelles dans le mur.
La suite de l'histoire, Véronique Elzieux.
Yves Combeau, parmi les mouvements que vous avez évoqués là, qu'est-ce qui fait finalement aujourd'hui la différence? Est-ce que, par exemple, la place de l'expression de la foi est un des changements les plus notables?
Certainement. Les scouts de France réformés et les guides de France réformés des années 60 sont des mouvements catholiques. Et de fait, dans les textes de la réforme, il y a une très belle pensée catholique. Depuis les années 80, les scouts de France et les guides de France, et maintenant les scouts et guides de France, se posent des questions. Ce sont des questions. En ayant choisi, ce qui est très courageux, d'être un grand mouvement d'éducation populaire ouvert à tous, donc aux jeunes non baptisés, et a fortiori d'avoir des unités majoritairement non chrétiennes, ils ont évidemment mis un peu à distance leur vocation originelle de mouvement catholique pour les catholiques. Ça a une conséquence automatique. C'est qu'à partir de ce moment-là, le mouvement, s'il annonce la foi, ne l'annonce pas à tous, ou bien l'annonce indirectement. Par exemple, dans un camp, la messe ne sera plus obligatoire, la messe du dimanche, j'entends, et les valeurs communes ne seront plus des valeurs chrétiennes. Et le but commun ne sera évidemment plus la sainteté, puisque là, c'est un but chrétien. Alors, je suis un peu rigide en tenant ce raisonnement, mais vous voyez ce que je veux dire. Les mouvements qui ne sont pas réformés, scouts d'Europe, scouts unitaires, conservent comme but ultime de la progression des garçons et des filles, le but ultime de toute progression chrétienne, qui est la sainteté. Donc, forcément, tous les moyens chrétiens seront mis en œuvre dans l'unité, pour mettre le jeune en chemin vers ce but.
Il les réaffirme, ces mouvements que sont les guides scouts d'Europe et les scouts unitaires de France. Est-ce qu'il ne les réaffirme pas au risque d'être considérés comme des mouvements traditionnels, voire traditionalistes, très identitaires? C'est un peu parfois l'image qu'ils ont et qu'ils ont parfois aussi la tendance à entretenir.
Oui, alors vous savez qu'en France, de toute façon, le mot d'intégrisme commence au centre droit et le mot de gauchisme au centre gauche. Donc je veux dire par là que la susceptibilité des uns et des autres est telle que vous ne pouvez pas bouger le petit doigt sans vous faire taper dessus d'un côté ou de l'autre. Donc sérieusement parlant, les scouts d'Europe et les scouts unitaires, ce sont des mouvements d'éducation chrétienne qui se présentent comme complément d'une éducation chrétienne dispensée par la famille. C'est-à-dire c'est leur définition même. Si vous n'êtes pas chrétien, il existe d'excellents mouvements, en théorie du moins, qui vont accompagner votre enfant. L'idée est que, oui, ce sont des mouvements qui sont chrétiens, qui proposent des activités chrétiennes à des jeunes qui sont chrétiens, qui normalement sont baptisés. Alors, cela étant dit, je passe sur la question de l'identitarisme parce que c'est un procès qui est d'autant plus facile que tous les mouvements, scouts et guides de France aussi, continuent à employer l'uniforme et des signes identitaires qui sont extrêmement visibles. En revanche, sur la question du positionnement chrétien qui serait un positionnement traditionnaliste, je suis très très agacé parce que aucun des deux grands mouvements que j'ai cités à plusieurs reprises, les scouts unitaires et les scouts d'Europe, n'a jamais été de près ni de loin traditionnaliste. Qu'ils aient eu des éléments traditionnalistes en leur sein, c'est une autre question. Quant aux mouvements traditionnalistes, ils existent, ils sont numériquement insignifiants. C'est-à-dire qu'en fait, je pense qu'entre le traditionnalisme religieux et le scoutisme, c'est pas le grand amour. Le scoutisme est beaucoup trop libre pour ça.
Combeau, vous avez rappelé l'objectif finalement du scoutisme, qui est de faire des hommes et des femmes libres, autonomes, responsables et fraternels. Comment les scouts, de manière un peu générale, alors c'est compliqué de parler comme ça, mais où les mouvements scouts se sont-ils comportés lors des deux guerres mondiales, toujours en France, on va rester dans le périmètre de l'Hexagone?
Bon, alors lors de la première, ils étaient naissants, donc si vous voulez bien, je n'ajouterai pas grand-chose de dire que les tout premiers scouts ont donné quelques-uns, évidemment, des victimes mortes pour la France ou pour leur pays. La Deuxième Guerre mondiale, c'est une question qui est un peu confuse en apparence, mais assez simple en réalité. Les mouvements scouts n'ont pas du tout contesté le régime de Vichy, pas plus que le reste de la population française, puisque tous ont pensé que ce régime était parfaitement légitime. Après tout, le maréchal avait été désigné par une assemblée nationale de centre-gauche, je le rappelle, par un vote quasiment unanime. En revanche, ils n'avaient pas beaucoup de sympathie pour les orientations du régime, ou plutôt, ils en approuvaient certaines, et pas du tout d'autres. Du coup, ils sont restés dans une situation assez méfiante, donnant des gages au régime, puisqu'il en allait de leur propre existence, sinon ils étaient interdits immédiatement, et ça n'était pas passé loin. Tant qu'il s'agit de prêter des garçons pour défiler quand le maréchal vient visiter une ville, ça va très bien. Quand il s'agit d'entrer dans les rouages du régime, c'est une autre question. Et cette attitude un peu, si vous voulez, alors on peut dire neutre, mais on peut dire aussi quelque part au milieu du guet, a conduit à la mise à l'écart des responsables après la guerre, mais je n'ai trouvé, à de rares exceptions près, aucun cas de collaboration avérée. J'ai des maréchalistes à tout craint, mais ce ne sont pas des collaborateurs à proprement parler, c'est-à-dire qu'ils n'étaient pas engagés dans le régime. Dans l'autre sens, dès le début, un grand nombre de garçons et de filles entre en résistance. Les cas sont innombrables. Vous avez ce magnifique exemple des guides aînés, donc au-dessus de 17 ans, de Strasbourg, qui montent un réseau de résistance, faux papiers, exfiltration, convoyage, etc. Le réseau des purs sangs, un réseau qui sera découvert avant la fin de la guerre, et donc il y aura beaucoup de victimes. Vous avez des réseaux similaires chez les garçons, et puis la seconde vague de la résistance, c'est-à-dire le maquis, à partir de 42, avec des maquis presque entièrement scouts. Certains massacrés, il y a plusieurs massacres de maquis quasiment complètement scouts, comme celui de la forêt d'Orléans ou celui du bois de Boulogne, à Paris, ou des maquis de Compiègne, dans l'Oise. Et enfin, vous avez un nombre énorme de scouts dans les armées françaises de la Libération, puisque je prends volontiers cet exemple-là. Lorsque, au dernier jour de la campagne d'Allemagne, maréchal Leclerc a pris Berchtesgaden, son ordonnance, à côté de lui sur le commande-car, était un chef de troupe scout de France parisien, et l'aumônier, quelques voitures plus loin, était un aumônier scout parisien.
Donc on voit que les scouts s'engagent. On sait aussi, quand on regarde un peu le parcours, la biographie de certains hommes connus, hommes d'État ou femmes d'État, ou en tout cas qui ont eu des responsabilités, que le scoutisme a fait partie de leur formation et qu'ils sont restés très attachés aux valeurs inculquées lors de cette expérience.
Il y a une surreprésentation du scoutisme dans le personnel politique français. C'est un petit mystère. C'est peut-être parce que les scouts sont réellement plus débrouillards que les autres, je ne sais pas. Après tout, c'est le but.
Ou qu'ils ont le sens des responsabilités.
Le sens des responsabilités, le désir de s'engager, ça je crois que c'est très vrai. Le désir de servir aussi, le côté désintéressé, alors qui conduit quelquefois d'ailleurs leur carrière politique à des ruptures. Je m'explique, j'ai vu pas mal de personnel politique ayant été scout ou guide finir par casser en disant c'est trop dur ou bien c'est trop compromettant. Un exemple suffira, François Léotard, hein, chef scout à Paris, et bien que sa famille fût provençale, qui a arrêté sa carrière politique après, certes, un très beau parcours, parce qu'il trouvait ça trop dur et trop contraire à ses valeurs personnelles.
D'autres exemples?
Je pense qu'une partie des difficultés qu'a subi Michel Rocard est venue de son honnêteté scout indéracinable. C'est ce qui rend Rocard extrêmement sympathique. Il dit ce qu'il pense, il pense ce qu'il dit, et quand il n'est pas certain de ses convictions, il cherche, ce qui peut conduire à des interviews un peu longuettes à la télé, mais je crois que cette honnêteté résolue, ce refus justement de se compromettre, ce désir d'entendre les points de vue de chacun, etc., ça, quelquefois, l'a placé en position handicapante par rapport à des requins tels que le défunt président Mitterrand.
Jacques Chirac a été scout également.
Tout à fait. Jacques Chirac a prononcé sa promesse en 1947 devant la paroisse Saint-Philippe du Roule, qui était celle de ses parents, au sein de la troupe 27e Paris, dont j'ai l'honneur d'être l'aumônier aujourd'hui. Le petit Chirac était un scout plein d'enthousiasme, quoique un peu rêveur. Et il n'est pas allé jusqu'au bout puisqu'il n'a pas été chef de patrouille. Mais il en a gardé une trace et il le rappelait assez volontiers en présence d'autres scouts. Alors, il y a toujours des histoires très rigolotes. Jacques Martin prétend qu'il a fait, après un dîner bien arrosé où la tête de veau avait dû compter, qu'il a fait chanter à Chirac ses vieux chants scouts. Je ne sais pas si Jacques Martin n'exagère pas un peu, mais Jacques Martin lui-même a été un très heureux chef à la 4e Lyon. Et en fait, si vous me lancez là-dessus, les noms vont ressortir les uns après les autres en chapelet. Pierre Bellemare, chef de troupe de la 38e Paris. Enfin voilà, la liste est très longue. Aussi chez les artistes, Julien Clerc, scout passionné.
Jean-Jacques Goldman.
Jean-Jacques Goldman, parfaitement. D'ailleurs, Goldman et Clerc auraient pu se croiser parce qu'ils étaient dans le même mouvement. La liste est vraiment très longue. Alors bien sûr, ça transparaît plus ou moins. C'est-à-dire, je m'explique, le scoutisme façonne des personnalités, mais il ne dit pas quoi faire et il ne dit pas dans quel sens aller. Par exemple, un groupe scout qui a été très important en son temps est celui de la Sindo d'Alger, Saint-Dominique à Alger. C'est un groupe qui, évidemment, comme tous les groupes algérois, a été confronté au conflit de conscience de la guerre d'Algérie. Eh bien, les mêmes chefs de la même génération, des amis d'enfance, se sont trouvés les uns à porter des valises, les autres à rejoindre le FLM. Le scoutisme ne dit pas quel choix faire. Chacune des options, là évidemment je les ai résumées de façon tellement brutale qu'elles sont toutes les deux scandaleuses, mais chacune des options possibles peut être soutenue. La justice, la défense de l'opprimé, la patrie, la cohérence avec le serment donné, etc. Bref, le scoutisme vous dit dans quel esprit faire les choses, mais pas quelle chose faire.
Suite de l'histoire, Véronique Elzieux.
Et pour citer quelques noms de femmes, je voudrais quand même préciser qu'Agnès Varda, Claire Chazal ou Simone Veil ont été guides, elles aussi. Vous avez souligné, Yves Combeau, à quel point on est marqué par le scoutisme. D'après vous, pourquoi ?
Eh bien, je crois, en fait, on revient à ce que je disais au début, je crois à cause de son caractère fondamentalement naturel. Il prend votre corps, il prend votre affectivité, bref, il vous prend aux tripes. Je sais bien que quand on n'a pas été scout, on est toujours très agacé par les scouts. Par exemple, dans mon couvent, les frères qui n'ont pas été scouts trouvent agaçant que des frères qui ont été scouts, pour les plus anciens, aux alentours de 1935, continuent à parler de leur camp scout, quoi. C'est bon. Oui, mais ils peuvent pas savoir ce que c'est, ils l'ont pas été. Les projections imaginaires de soi, la force, y compris physique, de l'investissement du jeune, l'intensité des relations amicales, qui est incomparable avec celle qu'on peut avoir à l'école, la hauteur de l'idéal, je crois que c'est pas rien de rajouter cela, la hauteur de l'idéal qui est proposé, aucune instance ne vous propose à 12 ans de vous engager pour la vie sur des valeurs qui sont les valeurs de l'évangile. En tout cas, pas de façon aussi directe. Ma profession de foi n'a eu, effectivement, dans ma vie, aucun écho. Par contre, ma promesse, ça, ouais. Hein ? Alors que les deux, techniquement, sont des professions de foi. Bref, le scoutisme est très fort.
Et très actuel, parce que lorsqu'on regarde les chiffres, on est assez stupéfait de voir qu'il se porte à merveille. Alors qu'on parle d'une génération geek.
Oui, alors ça continue à me surprendre, en fait. Tout est réuni pour qu'il se porte mal. Et en fait, il se porte bien, numériquement. Et les mouvements sont en bonne santé, ils sont tous en croissance, croissance plus ou moins rapide ou modérée selon les cas bien sûr, mais avec des nouvelles créations d'unités, des nouveaux quartiers, des nouveaux publics qui sont atteints. Parce que la société change et on a l'impression que, non pas que le scoutisme ne s'adapte pas, il s'adapte bien sûr, mais on a quand même l'impression que ce qui était un ovni en 1907 est toujours un ovni en 2020 et se porte très bien.
Avec quand même des problématiques aussi liées à l'époque qui sont par exemple, paraît-il, une difficulté difficulté plus grande, disons, des jeunes à s'investir à long terme et à être fiables.
Alors c'est vrai...
Du côté des chefs, hein, je veux dire.
Du côté des chefs, non, c'est vrai. En fait, non, c'est vrai d'abord pour ce qui est tout simplement de l'organisation de leurs études. Parce que vous savez qu'aujourd'hui, les études sont souvent fractionnées par un stage ici, un stage là, une césure. De fait, le jeune est tout simplement moins disponible. Bon, cela dit, l'argument n'est pas si valable que ça, parce que de mon temps, si j'ose dire, nous les garçons, nous avions le service militaire qui venait aussi au milieu. Par ailleurs, il est vrai qu'on a du mal à obtenir un engagement sur la durée, non seulement du chef ou de la cheftaine, mais aussi du jeune, qui ne fait peut-être pas aussi naturellement qu'autrefois la totalité de son parcours dans le scoutisme. Cela étant posé... Un examen attentif des unités scouts dans les décennies qui ont précédé, et notamment dès les années 20-30 en milieu populaire, montre que ces difficultés étaient déjà les mêmes.
Un très grand merci Yves Combeau de nous avoir raconté l'histoire du scoutisme. Je rappelle que vous êtes dominicain prêtre, vous êtes également aumônier scout à Paris et puis historien du scoutisme. Merci à vous, merci à Antoine Picot qui assurait la technique ici à Lyon et merci à Henri Paget qui lui était du côté du studio à Paris. Merci à tous.